Bonjour à tous. C'est vrai que l'Église est belle. Il nous suffit de la regarder avec les yeux du cœur. Et là, nous voyons exactement ce que Jésus veut qu'elle soit. Je vous invite ce matin à faire une pause dans la vie turbulente un peu qu'on mène. Et ce matin, je suis venu avec une histoire. J'aime bien les histoires. Une histoire qui dépasse de loin toutes les autres et en plus, c'est une histoire vraie. Une belle histoire. C'est l'histoire de la vie, de la vraie vie. Et j'aimerais poser le décor. Bernard ? Merci. On va prier. Seigneur, c'est une responsabilité de prendre la parole. Et je pense souvent à Ésaïe qui dit « Malheur à moi, je suis un homme perdu, parce que je suis un homme aux lèvres impures. Loin de moi la pensée de penser autre chose que de te demander de purifier ma bouche, Seigneur, de laver tout ce qui pourrait sortir afin qu'aucun ne puisse être troublé. » Mais qu'au contraire, que des paroles d'encouragement, d'exhortation, de joie, qui nous permettent de voir que cette parole que tu nous as donnée, ça n'est pas un livre. Lorsque nous la prenons, comme nous le prenons maintenant, il devient la parole de Dieu. Quel privilège que d'entendre Dieu nous parler. Je prie que ce matin, Seigneur, cette histoire que j'ai voulu prendre en partie dans ta parole, puisse être un moment d'encouragement, un moment aussi de réflexion, pour finir par un moment de joie. Parce que lorsque nous te rencontrons, c'est toujours un moment de joie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, comme l'a dit hier notre frère en se faisant baptiser, nous sommes nés de nouveau. Nous avons ce privilège que dans notre cœur, tu es vivant. Ton esprit nous irradie de la vérité. Et ce matin, c'est justement la vérité que nous voulons entendre. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Tu es celui qui connaît toutes choses. Avant même que nous prononcions nos paroles et même que nous les pensions, tu les connais déjà. Tu sais tout, Seigneur. Nous ne voulons rien cacher. Nous voulons juste nous mettre devant toi comme nous sommes. Et te dire que merci pour tout ce que tu nous donnes, te louer pour le fait que nous ayons accès au Dieu Tout-Puissant. Quel privilège. Merci Seigneur de nous conduire justement ce matin à ouvrir les yeux sur toi un peu plus. Au nom de Jésus, amen. Alors permettez-moi de poser le décor. En fond, l'éternité. Alors là c'est vaste, ça nous permet... de laisser aller notre imagination. Et puis dans l'éternité, l'éternel, le Dieu saint, parfait. L'atmosphère est sainte, le paysage parfait, une douceur nous envahit, tout est bon, agréable et parfait. Voilà le début d'une belle histoire. Bien, hein ? Pas toujours que l'on a cette réflexion. L'éternel Dieu règne et du haut de sa gloire, il contemple sa création, l'univers et surtout l'objet de son attention, la terre. Eh oui, Dieu a tout accompli pour cette terre. Il a créé un univers de paix, un homme et une femme libres et il a installé une relation d'amour avec des êtres humains. Vous trouverez tout ça dans le premier chapitre de la Genèse. Le premier livre de la Bible, je ne vais pas vous le relire, une autre fois peut-être. Voilà le décor posé. Moi j'aime bien me rappeler ça et je revis souvent ça. En majesté, l'Éternel règne. Mes amis, cette pause de ce matin se veut rafraîchissante. Nous contemplons l'univers, laissons-nous aller dans cette béatitude de beauté, de perfection et d'amour. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait l'univers qui est autour de nous. Moi j'ai besoin de regarder Dieu de cette façon Pour moi, certains reconnaîtront, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières qui irradie sa création. Quel repos céleste. Vous connaissez ce chant ? C'est un très beau chant. J'avais un ami qui chantait merveilleusement bien, enfin qui chante toujours merveilleusement bien, et chaque fois je pense à lui quand j'entends dans mon cœur cette chanson. Je ne vais pas vous faire l'offense de la chanter, déjà pour lui, mais dans ma voiture, elle sait combien je chante. Et oui, c'est important de se reposer sur la vérité biblique de la création divine, et non pas sur la terre d'aujourd'hui, où ce n'est plus le même programme. L'homme a choisi de sortir de cet univers céleste, et nous vivons les conséquences de ce choix. Et ça, c'est important de penser que nous vivons les conséquences, et nous agissons sur les causes, mais pas sur les conséquences. Les conséquences, nous les subissons. Malheureusement, c'est comme ça. L'homme a choisi donc de sortir, et les conséquences de ce choix, de cette chute, plus de repos céleste pour cette terre de misère, terre de haine, de méchanceté, d'égoïsme, et on pourrait en rajouter. Du haut de sa gloire, Dieu souffre de cette séparation, car Dieu n'a pas changé. Il aime parfaitement. Dieu est amour, et c'est une relation d'amour qu'il avait installée dans le jardin. Mais de l'amour divin, pas de l'amour comme on voit aujourd'hui. Vous savez, cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. J'aime bien en Dieu l'absolu de la totalité de sa personne. Nous, nous compartimentons les choses. Hein, on fait, je vais à la pêche, alors j'ai le tiroir de la pêche. Je vais faire de la cuisine, j'ai le tiroir de la cuisine, etc., etc. Dieu n'est pas comme ça. Dieu règne sur l'ensemble de sa création. Il est le créateur. Et Dieu ne calcule pas. Dieu ne négocie pas. C'est ce que j'aime avec lui. Quand on va vers lui, on peut être tranquille. Alors, dans son éternité, Dieu va intervenir majestueusement. Au même titre que son acte de création qui a dû éblouir les anges. Dieu va donner une dimension à son amour. Il va se séparer de lui-même. Dans la Trinité, une déchirure va se faire. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais que vous réfléchissez à cet acte de violence qui a existé dans la divinité pour justement nous permettre aujourd'hui de vivre en nouveauté de vie. Dieu, prenant une forme d'homme, descend de sa gloire, se sépare de son univers de sainteté. Il vient offrir aux hommes la possibilité de retrouver une relation avec lui. Imaginez la scène. Du trône de la gloire, Dieu choisit d'intervenir sur cette terre de misère. C'est le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. C'est toujours le Dieu saint. Et c'est aussi le début de notre histoire. Vous allez me dire, on la connaît. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est une très belle histoire puisque c'est une histoire vraie. Et c'est l'histoire de Jésus, celui qui sauve. Vous savez, Jésus, ça veut dire celui qui sauve. Tout d'abord, il est écrit dans un vieux livre, un très vieux livre, l'histoire d'un enfant. Fils du maître de l'univers, il a dans sa main une poignée d'étoiles. Son trône est couvert de nuages et pour l'éclairer des rayons du soleil. Il regarde avec beaucoup de tendresse ce petit enfant qui pourtant n'a rien d'un fils de roi. Écoutez sa naissance. Je vous invite avec moi à venir dans Luc, chapitre 2, les versets 1 à 14. Alors, je ne vais pas vous faire Noël. Hein. Non, non, ne vous y trompez pas. Mais on va quand même lire. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né, son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant né, enveloppé de linge, et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Ce que nous voyons ici, c'est un exemple d'humilité. Vous pourrez prendre le parallèle de Philippiens 2, ce chapitre formidable, où il dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'homme. Exemple d'humilité pour vivre une vie heureuse et paisible dans une crèche, avec les animaux pour compagnons, de la paille pour lit. Mais ce qui est troublant, c'est que le maître de l'univers va l'annoncer aux pauvres bergers. Vous savez, on n'aimait pas beaucoup les bergers. Ils sentaient le mouton, les brebis, sans doute un peu le fromage caillé. En un mot, ils n'étaient pas bien fréquentables. Mais ces bergers avaient une qualité. Savez-vous laquelle ? Dieu ne regarde pas comme les hommes aux apparences, il regarde au cœur. Et le cœur des bergers est souvent plein d'émerveillement pour la création. Ils passent beaucoup de temps à regarder les étoiles. Et pour notre histoire, il y a deux façons de la regarder. Soit comme le monde, au travers des lumières, de tout le spectacle de la vie qui nous entoure, ou bien comme les bergers, qui n'avaient pas grand-chose. Leur télévision, c'était la voûte des cieux. Notre histoire, l'autre façon de la regarder, c'est de suivre ces bergers dans l'étable. Au verset 10, il est écrit « Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous un sujet de grande joie. Et l'ange de continuer, il vous est né un sauveur. » Mais, me direz-vous, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? C'est bien là la question. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Regardez. Depuis que l'homme est sorti du jardin de Dieu, il vit dans sa misère. Celle que nous voyons sur cette terre, pauvreté, méchanceté, l'orgueil d'être seul. C'est en fait ce qu'a voulu l'homme. Il n'a plus voulu d'être en communion avec Dieu, il a voulu être seul. Un peu comme nous a dit dans son témoignage notre frère hier, il a voulu à un moment donné, mais en fait il était collégien lui, il a voulu savoir, seul. Comment vivre ? Et puis après, il est revenu vers Dieu. Amen, ça. Dieu n'avait pas créé toutes choses ainsi. À la création de Dieu, tout était bon, agréable et parfait. Mes amis, je voudrais vous poser une question ce matin. Même à ceux qui croient être sauvés, même à moi. Est-ce que je vis par l'esprit ou par l'humain ? Par mes pensées ou par moi ? Vous savez, ce gros moi. D'abord, il y a moi. Puis peut-être après les autres, s'il reste de la place. Ça m'étonnerait. Sommes-nous bons, agréables et parfaits ? Ma femme fait la garderie ce matin, ça tombe bien, parce que vous pourriez lui demander, elle vous dira que je suis parfois désagréable, même parfois méchant, mais enfin surtout imparfait. Vous savez de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu, et cela chaque jour. De laisser le Saint-Esprit prendre les guides de ma vie, de laisser Dieu conduire ma vie, de laisser son Esprit me parler. Comment faire ? Nous y viendrons un peu plus loin. Dans mon histoire, Dieu descend parmi les hommes, et quelle apparence prend-il ? Celle d'un petit enfant dans une grange avec des bêtes et du foin. Lui, le roi des rois. C'est le mystère de cette histoire. Elle est en partie mystérieuse. Pour la comprendre, il faut être un peu comme les bergers. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui savaient que le Messie devait venir. Le Christ, loin de Dieu, que ce serait un roi et qu'il régnerait éternellement. Alors pourquoi ont-ils rejeté Dieu? Pourquoi aujourd'hui, souvent, nous rejetons Dieu? Bien, tout simplement parce que nous sommes des orgueilleux. Pas vous, mais moi, oui. Des rebelles qui ne veulent en faire qu'à leur tête. Et c'est pourquoi ça ne marche pas dans ma vie. Je refuse de laisser Dieu me conduire. C'est aussi en partie pourquoi cette histoire existe. C'est un symbole d'humilité. Dieu n'a pas voulu se présenter comme il était, mais il s'est présenté comme il aurait voulu que nous soyons. Un peuple humble devant son Dieu. Un peuple qui n'a pas peur de courber la tête devant son Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur, et nous sommes ses créatures. Depuis quand la créature dit au Créateur ce qu'il doit faire? Pour nous rappeler que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience du salut, eh bien, c'est le cadeau de Dieu. Pour nous, c'est aussi un cadeau de grâce. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et chaque jour, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dieu nous a créés éternels à son image. Nous avons choisi de vivre sans lui, à notre façon. On voit le résultat aujourd'hui de ce monde. Je ne répète pas, plein de souffrances. Il faut toujours inventer, il faut toujours aller plus loin. Et j'aime bien ce verset qui a été cité hier au baptême, que nous connaissons tous, Jean 3,16. Mais lui, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là que notre histoire est authentique et applicable à tous, à vous et à moi. Que ce soit pour la première fois ou depuis toujours, cette histoire reste et restera le symbole de la réconciliation. Le cadeau de notre Dieu, c'est la réconciliation. Réconciliation de sa créature avec lui, le Créateur. Il nous demande de reconnaître notre état de pécheur et d'accepter de changer de vie. Écoutez Dieu nous dire ce qu'est le cadeau de cette histoire. Arrêtons-nous sur ses paroles. 2 Corinthiens 5, 17, un passage bien connu, qui nous dit comme ça, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous un appel, son appel, nous supplions tous au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Voilà, vous voyez, c'est l'histoire de Dieu et des hommes, un Dieu compatissant, miséricordieux, bon, agréable et parfait. Pour comprendre cette histoire, Dieu nous a donné son esprit, et le Saint-Esprit nous convainc de pécher si nous le laissons faire. Qu'allons-nous répondre à cette offre? Je vous propose de regarder dans votre cœur et de vous positionner face à Dieu. Comment? En lui demandant pardon, tout simplement. Et je voudrais prier. J'ai pas fait longtemps aujourd'hui, parce que je voudrais prier maintenant Et vous aussi, bien sûr, vous pourrez prier avec moi, un cri vers Dieu pour retrouver la liberté avec son esprit. Je prie pour moi et je prie aussi pour notre Église. Nous sommes tous parfois un peu alourdis par nos erreurs. Nous appelons ça des erreurs pour ne pas dire des péchés. Je vous invite à les nommer péchés. Et de savoir aussi que nous avons l'obligation, la nécessité de nous réconcilier avec Dieu. Pour tout. Vous savez, nous sommes habitués à négocier. Je ne sais pas vous, moi j'étais un homme d'affaires. J'étais habitué à tricher. Je le dis parce que c'est un monde où on triche. C'est un monde de crapules. Alors rassurez-vous, je n'ai jamais gagné, j'ai toujours perdu. Succès. Mais c'est pour dire que ce n'est pas facile de faire des affaires dans un monde de crapules. Parce que c'est comme ça. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde de trafiquants qui négocient continuellement. Mais avec Dieu, ça n'est pas tout à fait comme ça. Et ne laissons pas rentrer dans l'Église cet esprit du monde qui consiste à essayer de négocier. Non. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux avec Dieu pour lui demander pardon. Je crois que notre Église a besoin de demander pardon. J'en ressens la nécessité. Alors chaque jour, je me mets bien sûr à genoux devant Dieu pour lui demander pardon, comme disait David, pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas, mais que je n'ai pas manqué de faire. Parce que nous sommes comme ça, nous sommes des pécheurs. Mais nous avons ce privilège de pouvoir venir à la croix, de nous y laisser aller. Quoi que nous ayons pu faire, il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Par contre, même les petits péchés que l'on laisse, Dieu veut aussi les pardonner. Parce que les portes ouvertes au diable sont les portes qu'il va utiliser. Je vous invite à vous joindre dans ma prière. Je vais me mettre à genoux, j'aime bien me mettre à genoux. Si certains veulent comme moi se mettre à genoux qui se sentent libres, ce n'est pas une obligation. Mais ensemble, joignons-nous dans la prière pour demander au Seigneur de nous réconcilier les uns avec les autres, tous ensemble avec lui, et autant faire se peut avec tous les hommes. Seigneur mon Dieu, cette histoire ne serait rien sans ta venue, et sans ta venue extraordinaire dans l'humilité. Je suis un homme orgueilleux, Seigneur, je ne suis pas un homme humble. Et quand je prends dans ta parole justement l'explication de ce que tu as fait, comment tu t'es présenté, je suis bouleversé. Parce que comment, effectivement, un Dieu que je n'ose même pas imaginer, parce que dans ton infini, comment pourrais-je arriver à te décrire? Mais dans ton absolu, je vois, Seigneur, qu'un jour, je serai dans cette présence, et cela me remplit d'espérance et de joie. Cela me garantit aussi, c'est la certitude de ta parole, puisqu'elle t'appartient. Cela me donne le privilège de pouvoir venir au pied de la croix et te dire « Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas à m'excuser. Je n'ai pas à présenter n'importe quoi. J'ai juste à dire « Pardonne-moi. » Parce que je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Tu pardonnes et tu donnes même ce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce, Seigneur. Mais tu la donnes. Alors j'ouvre les mains. Je me laisse remplir de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Mon cœur aspire tellement à ta présence, à ce que tu purifies justement, et que je puisse être en pleine communion avec toi. Remplis-moi de cette plénitude que toi seul peux donner. Je prie ça aussi pour tous mes frères et sœurs présents, que tous ensemble nous puissions nous unir dans le même cri pour te dire Amen, parce que nous croyons que véritablement tu es ce Dieu miséricordieux, tu es ce Père qui pardonne à ses enfants, tu es ce roi qui règne sur son Église. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce à travers toutes ces certitudes. Ta parole est vraie, je le crois, sur toute sa plénitude, toutes ces certitudes qui sont à l'intérieur, je me les rappelle. Comme Marie qui méditait au fond de son cœur, moi souvent je médite au fond de mon cœur toutes ces vérités, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que j'ai raison. C'est vrai, tu es vraiment Jésus qui est venu sur la croix mourir pour nous et nous permettre que ce soit accompli une fois pour toutes. J'en ai la certitude, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Bénis-nous, Seigneur, unis-nous, libère-nous, que nous puissions être tous réconciliés dans le même cri et la même joie.